Il faut la croire parce que je pense qu'elle a, elle semble avoir une volonté réelle de découvrir le Québec, le Canada, pardon, d'est en ouest. Elle, elle est du Québec, mais aussi, je pense, de pouvoir rejoindre toutes les communautés. Et puis surtout qu'au Québec, c'est assez controversé comme rôle, le rôle de gouverneur général. On a cette relation, je dirais, houleuse avec la monarchie. Alors, elle doit se munir de tous les atouts pour charmer le Québec parce qu'elle en aura besoin.
Alors, c'est ça qui est important quand on a des institutions qui se respectent et maintiennent. Alors, on a vu avant qu'elle a été installée comme gouverneur général, elle a parlé avec la reine Elisabeth, parce que c'est la représentante de la reine Elisabeth au Canada.
Voilà.
Et celui qui l'a installé, c'est l'ancien juge de la Cour, le juge de la Cour suprême du Canada, qui avait remplacé par intérim et Mme Julie Payette, l'ancienne astronaute, également et représentante de la reine Elisabeth.
Oui, c'était une passation de pouvoir, en fait, qui s'est bien fait. Il n'y a personne qui a essayé de retenir le pouvoir qui ne leur était pas dû. Mais c'est aussi ce qu'on remarque beaucoup au Canada, c'est ce respect de la tradition. Et je pense qu'il y a très peu de rôles au Canada qui sont aussi traditionnels que celui de gouverneur général. Parce que oui, bon, c'est de la figuration, mais c'est un symbole très, très fort. Et ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années, c'est un symbole qui se redéfinit. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait le gouverneur général? Qu'est-ce que fait une gouverneur générale? Je pense que si on faisait un vox pop à travers le Canada, on serait pas plusieurs à pouvoir expliquer. Même moi, des fois, surtout à la veille d'élections fédérales, souvent les journalistes font un rappel du rôle du gouverneur général. Puis pour moi, c'est toujours une éducation parce que j'oublie certains des pouvoirs, certains des rôles du gouverneur général. Donc, de redéfinir ce rôle est important parce que justement, pas nécessairement le rajeunir, mais pour mieux le faire comprendre. Et c'est ça, c'est un des défis de la gouverneure générale, c'est-à-dire de faire comprendre ce qu'elle fait, parce qu'elle ne fait pas que aller à des cocktails et puis couper des rubans. Il y a un rôle beaucoup plus important, il y a un rôle il y a une responsabilité d'unir le Canada, il y a une responsabilité aussi de représenter le Canada. Et un des challenges qu'elle a toujours eu avec ce rôle, c'est justement de répondre à cette question, qu'est-ce que le Canada? Qu'est-ce qu'un Canadien? À quoi ressemble un Canadien? Et là, on a la personne de Mme Simon, d'abord une femme. C'est pas la première. On a une tradition de femme gouverneure générale depuis Jeanne Sauvé. Mais aussi, qu'elle soit d'origine autochtone, c'est extrêmement important parce que, on le sait, ce sont les premiers peuples canadiens. Donc, il y a ce clin d'œil à l'histoire. Et je pense qu'elle aura plusieurs défis devant elle, mais de l'avoir à ce poste, je pense, est un début de réconciliation aussi.
Et ce qu'on pourrait dire d'elle, c'est une personne qui a déjà occupé de grandes fonctions et au Canada. Et c'est une ancienne journaliste dans une émission anglaise de Radio-Canada. Et elle occupait d'autres fonctions au niveau canadien.
Oui, absolument. Et puis c'est quelqu'un qui a conseillé René Lévesque quand même. Donc c'est quelqu'un qui a été diplomate aussi, qui était diplomate en Europe. Donc c'est une qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de compétences aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Comme Madame Payette d'ailleurs avant elle. Hein, c'est très la gouverneure générale ne sera jamais des gens qui ne sont pas compétents. Dans leur domaine, évidemment, des fois ils arrivent au poste de gouverneur général et puis c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile, évidemment, parce que c'est un rôle dans lequel ils n'ont jamais été. Mais normalement, on va chercher les meilleurs de leur discipline. Donc voilà, donc Mme Simon ne fait pas exception. C'est quelqu'un qui a une brillante carrière et qui a un résumé, un curriculum vitae assez impressionnant.
Et ce qu'on a pu remarquer lors de l'installation, il y a eu une très belle émission sur RDI. Et on a vu, en fait, des, pas panélistes qui étaient quand même très compétents. On pourrait citer, par exemple, une autre autochtone qui était sur le plateau, et Madame Michèle Audette, qui occupait quand même des fonctions assez importantes pour faire le lien entre le peuple canadien et les autochtones. Il y a eu également un professeur en droit constitutionnel, Benoît Pelletier, par exemple. C'était quand même important de le souligner.
Oui, et puis je pense que dans les années à venir, cette réconciliation, cette reconnaissance aussi de ce que les peuples autochtones ont vécu sera à l'agenda de tous les ministères, de tous les gouvernements, et il est temps. Il est temps, Raymond, justement, qu'on fasse, que cet exercice soit fait, que ces reconnaissances soient faites aussi, et qu'on entende et qu'on voit ces Canadiens issus des communautés autochtones un peu plus. On est en retard, et là, il est temps de faire la lumière sur des atrocités du passé, puis surtout de reconnaître non seulement ce qu'ils ont vécu, mais de reconnaître aussi les accomplissements. Vous parlez de Madame Audette, une autre dame extrêmement compétente, mais il y en a des milliers. Il faut les voir, il faut les entendre.
Je me rappelle, lors de la prestation de serment de Madame Michaël Jean, nous étions trois dans l'équipe de Samedi Midi Inter qui était présent et à Ottawa. Je parle de Kéder Hippolyte, Joseph Jean-Gilles et moi-même, sur l'invitation d'un ancien ministre, un conseiller du premier ministre Paul Martin, à l'époque en la personne de Denis Coderre. Et je peux vous dire que c'est toute une cérémonie. Et on peut remarquer une chose également, Martine. On voit que la diversité que Justin Trudeau veut appliquer au Canada.
Oui, bon, je pense que même si son cabinet n'est pas, il y a peut-être
une
réflexion. Oui, on peut pas dire que ça déborde de diversité, mais ça demeure quand même pour lui, il y est quand même sensible. Et on le voit dans certaines décisions gouvernementales. On l'a vu par exemple dans le budget fédéral de Madame Freeman. Il y avait quand même, je pense, près de 300 millions de dollars qui étaient alloués à diverses initiatives mises de l'avant par des organismes de différentes communautés noires. Donc on voit que c'est à l'agenda. Si effectivement il y a des élections cet automne, et tout nous fait croire que c'est le cas, j'espère qu'on verra plus de diversité dans son cabinet. Ou ministre, sous-ministre, chef de cabinet, etc. Parce que dire qu'on est pour la diversité et l'inclusion, c'est une chose, mais encore faut-il le montrer.
Par l'acte, c'est l'action qui compte.
Absolument.
Alors, une des choses qu'on peut remarquer, en fait, Mme Saizona a été bien reçue, on a pu voir plusieurs autochtones et des artistes qui sont venus, et puis elle a eu la bénédiction de ses pères également.
Oui, mais en fait, ce genre de cérémonie, en anglais, on dit pomp and circumstance, souvent sont annonciateurs aussi du mandat à venir. Et je pense que ce qu'on a vu là, cette ouverture et puis cette diversité, certainement annonciateur du ton que Mme Simon voudra donner à son mandat.
Et pour clore cette partie de l'installation de la gouverneure, il faut se rappeler que c'est une vedette très connue de la communauté haïtienne qui a entonné l'hymne national du Canada pour la vice-reine.
Oui, mais en fait, c'est Raymond, c'est toi qui m'as mis au parfum juste avant d'entrer en onde parce que je n'avais pas vu cette partie de la cérémonie, mais quelle belle reconnaissance pour Mme Laure.
En effet, et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et très sympathique. Alors, et maintenant, c'est le temps de parler de notre cher pays. Jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Après les funérailles de Diego Charles et Marie-Antoinette Duclair, et c'est celle de l'assassinat du président de la République d'Haïti. On sympathise encore à tous ces morts de Duvalier à nos jours. Il faudrait que le sang cesse de couler, comme disait un ancien et avocat et défenseur des droits humains en la personne de Maître Gérard Gourgue et Martine.
Oui, bon, je pense que, comme tout le monde, je suis spectatrice. Les déroulements sont tristes. Je n'ai pas de boule de cristal. Vraiment, je peux pas du tout prédire ce qui va se passer dans demain, dans une semaine, dans un mois. Ce que je sais, c'est que il y a une volonté, je pense, non seulement au sein de la diaspora, mais aussi au sein de la société civile en Haïti de faire les choses différemment cette fois-ci, de sortir différemment de cette crise qu'on vit collectivement. Maintenant, faudra attendre et voir ce qui se passe. Vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus à part que le cœur y est. Et comme tout le monde, j'attends pour voir ce qui se passera dans les jours et les semaines à venir.
Mais moi, ma réflexion, c'est que les Haïtiens de l'extérieur doivent quand même faire un petit effort pour s'unir au lieu de se diviser.
Oui, je suis d'accord, mais ce que j'ai réalisé vraiment avec ce qui s'est passé récemment et puis aussi ce qu'on vit là en Haïti depuis, disons, les 10-15 dernières années, et puis j'avais écrit un papier dans la Gazette sur après la mort du président Moïse, et puis j'en avais écrit un aussi après le 7 février. Et ce que je remarque quand je reçois les courriels de lecteurs, c'est que notre vision de ce qui se passe en Haïti est basée sur notre expérience. Ce ne sont pas tous les membres de la diaspora qui ont la même expérience avec Haïti. Il y a des gens qui ont quitté Haïti dans des conditions extrêmement difficiles, et puis je suis sensible à ça. Ils n'ont pas le même genre d'amour ou le même genre de loyauté envers le pays, et puis c'est correct, il faut respecter ça. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que ma relation avec Haïti est une relation jusqu'à présent harmonieuse. J'ai des très beaux souvenirs. Donc, mon attachement est particulier. Mamgoumé pour pays. Mais je respecte aussi les gens qui en ont assez, en ont marre, parce qu'eux, ils ont tout donné. Surtout, ils ont tout perdu. Donc, oui, l'unité dans la diaspora, mais je pense qu'on doit être conscient qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tous les membres de la diaspora aient le même lien, la même réaction par rapport à ce qui se passe en Haïti. C'est impossible. Impossible.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai un slogan, Haïti d'abord. Je donne une bonne partie de ma vie pour la défense de ce pays que j'adore, que j'aime. Et je ne peux pas dire, hein, c'est le cas pour tout le monde, mais de mon côté, je sais que ça me touche quand je vois la situation des gens, et c'est pas une chose facile. Et je regardais cette semaine à la télévision et Martine pour voir des enfants qui vont passer leurs examens, et ce qui m'a plus touché, un jeune homme et que son père allait le conduire sur une moto, eh bien, les bandits ont pris le moto, ok, et on lui a donné, en fait, quelques dollars, quelques gourdes pour prendre le taxi. Il n'avait rien à manger.
Oui, non, mais c'est quand même...
Ça fait un cas parmi tant d'autres.
Oui, c'est-à-dire que les derniers chiffres des Nations Unies, vraiment, je pense que c'est 42% de la population qui était en insécurité alimentaire cette année. Donc, on a de graves problèmes. Je pense que... j'ajoute à ça un autre problème qu'on doit anticiper, qui existe déjà, mais qui sera très grave. 40% des médecins graduants en Haïti quittent Haïti. Ça veut dire qu'on a des problèmes à plusieurs niveaux. Et quand tu parlais d'unité au sein de la diaspora, oui, c'est vrai, c'est nécessaire, mais je pense aussi qu'on doit reconnaître ces problèmes très graves de base. Je regarde aujourd'hui ce qui se passe avec la vaccination. Je pense qu'on doit se dépêcher et appuyer quelles que soient les mesures de vaccination en Haïti. Si on peut faire quelque chose en tant que diaspora, il faut le faire. Et je pense qu'on doit se renseigner, voir, OK, quel organisme est-ce qu'on peut appuyer, parce que Et donc, à gros, mais pour payer en mieux, très bien, mais si moun yo ap mouri parce que yo pa gen vaccin, parce que moun ap mouri de COVID, et ça sert à rien de se battre. Hein. On se bat pour les gens, mais il doit, encore faut-il qu'ils soient en vie et en santé. Donc, je pense qu'il faut être, on doit être capable collectivement de faire une priorité, de faire des priorités. Et pour l'instant, pour moi, la priorité, je regrette, c'est la vaccination contre la COVID.
Tout à fait. C'est toujours un agréable plaisir de t'avoir sur les ondes de ta radio, de ton émission. Et puis, une salutation à ta maman. Je sais qu'elle nous écoute présentement.
Absolument. Et puis, à bientôt et bonjour aux auditeurs.
À très bientôt. Alors, c'était Martine Saint-Victor, un membre de l'équipe, stratège en communication. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.
Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journaliste pyromane, politicien mythomane, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis.
Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds.
Alors, c'est avec un grand plaisir, comme à l'accoutumée, que je reçois pour vous l'ancien diplomate cubain, depuis Cuba qu'on l'a rejoint, M. Gaston Diaz. Et bonjour, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit parmi nous.
Merci, mon cher Raymond. Moi, c'est un grand plaisir aussi d'être encore une fois avec vous et pouvoir causer un petit peu de différents sujets qui nous intéressent.
Alors, et on va commencer avec Cuba, où ces derniers temps, il y a eu plusieurs manifestations. Et à Cuba, les gens protestent contre la nourriture, l'électricité et tant d'autres choses. Et vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Ouais, rapidement. Je pourrais dire que bon, Cuba, qui a été soumis pendant plus de 60 ans à un blocus, pas un embargo, un blocus économique, financier de la part des États-Unis, et donc vit depuis tout ce temps-là dans des conditions économiques très très difficiles. Et donc, si on ajoute à cela la crise économique créée par la pandémie de la COVID, il faut savoir que le moment économique que vit Cuba est vraiment, vraiment très, 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 très dur. Et donc, on manque de produits alimentaires, on manque de carburant, on manque de médicaments. Donc, ça crée là, vraiment, on vit dans une situation vraiment très tendue du point de vue économique. Il y a des queues partout, les gens vont s'aligner pour tâcher d'acheter quelque chose pour manger. Et dans cette situation-là, les Américains ont joué un rôle plus négatif que jamais. Et déjà, à la fin de l'époque de comment s'appelle le type là, qui vient de partir, le président qui vient de partir
Trump.
Trump, oui, monsieur Trump. Trump avait donné à Cuba plus de 200 mesures additionnelles du blocus économique. Et donc tout cela nous a vraiment mis dans une situation très difficile. Et bon, après, ils ont vu cette situation-là et donc ils ont trouvé que c'était le grand moment pour donner un coup, un seul coup à la révolution cubaine. Et ils ont utilisé le média, l'Internet, et ils ont développé une guerre médiatique contre nous. Et ils ont créé une compagnie à la Floride à travers lesquelles ils ont créé des messages, des faux messages qu'ils ont passés à travers leur système de téléphone, WhatsApp, etc.
Et, les médias sociaux.
Exactement, les médias sociaux, pour dire que c'était le moment de se révolter contre la révolution, parce que c'était le gouvernement, le communisme qui était coupable de toutes ces pénuries que le peuple cubain vit. Pas le blocus, mais le gouvernement, etc. Et donc, comme tu as dit, il y a eu certains blackouts, rien comparé aux 4 heures d'électricité qu'on a en Haïti. En Haïti, il n'y a pas de problème pour les Américains. C'est à Cuba où il y a quelques heures, dans quelques endroits, quelques temps, c'est ici qu'il y a les grands problèmes. Donc, ils ont créé cette ambiance et ça a passé à, en plus, qu'il y a des agents qui sont payés par des gens aux États-Unis et qui envoient de l'argent.
On pourrait parler des anticastristes.
Voilà, des anticastristes qui sont bien organisés, qui vivent de budgets que le gouvernement américain leur donne à la Floride surtout et un peu partout aux États-Unis. Ils se nourrissent, ils vivent de cette situation-là. Ils ont de l'argent, ils passent quelques sous aux marionnettes qu'ils sont ici sur place. Et donc, avec toute cette situation-là, ils sont arrivés le 11 juillet dernier à faire que des gens sortent dans la rue. Dans la rue, tu avais trois types de personnes. La personne qui était vraiment mécontente à cause des pénuries que je viens de mentionner. Il y a ceux qui sont convaincus contre la révolution. Et il y a eu un grand groupe de délinquants qui ont profité de cette situation pour faire des dégâts, pour jeter des cailloux sur la police, pour renverser des voitures de la police, pour briser les magasins de l'État, pour aller voler dans les magasins de l'État. Et c'est ça qu'ils appellent qui était une manifestation de paix. Une manifestation de paix où l'on a renversé plusieurs voitures de la police dans la rue. Comme la police n'est pas habituée à ce type de choses-là, comme la police n'exerce aucune violence contre les personnes dans la rue, donc ils ont pu faire ça tranquillement. Et donc cela a créé vraiment une ambiance horrible, car par la suite, ils sont utilisés un peu partout dans le monde avec de fake news pour dire que la police était en train de donner des coups, de tuer des personnes, de disparaître des personnes. Enfin, c'est vraiment un grand barrage d'information contre Cuba qui est sorti du gouvernement des États-Unis, que je mentionne, c'est le grand patron de tout ce qui s'est passé ici à Cuba le 11, exactement le 11, on a eu les événements le 11, quelques heures, hein. Il faut dire que ça s'est passé maximum pendant 3 heures de temps. Après ça, les gens sont partis, tout le monde chez eux. OK? Et donc, le lendemain, il y a eu deux petits endroits où il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, le contrôle et la vie du pays est retournée à sa situation normale que nous connaissons de peu et de vie tranquille ici alors, dans le pays.
On va prendre un autre sujet parce que dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez vos relations avec la Russie peut causer des problèmes du côté des Américains, même si on est sur un gouvernement démocrate et qui est moins dur que les Républicains, très brièvement?
Non, notre relation avec la Russie, mais il faut mentionner la Russie, il faut mentionner la Chine. Nous avons de rapports très serrés du point de vue diplomatique, du point de vue économique et commercial. Ce que nous appelons, et ils appellent, nous avons des relations stratégiques avec la Russie. Et grâce à cela, et avec la Chine aussi, et grâce à cela, nous pouvons vivre. Par exemple, il y a deux grands avions, les avions les plus grands du monde, les Antonov 124, sont venus avec presque 90 tonnes d'aide envoyées par le gouvernement russe pour Cuba. Et donc, les Américains savent que nous avons... et que nous avons ces relations-là avec la Russie et la Chine. Mais ce n'est pas la Russie et la Chine, c'est Cuba même, parce qu'ils savent que nous sommes un pays socialiste et que nous le serons toujours que le monde va exister, Cuba va être socialiste. Et c'est ça qu'ils ne nous pardonnent pas. C'est ça que Fidel Castro l'a dit un jour. Ils ne nous pardonnent pas que nous avons fait une révolution socialiste à 150 kilomètres des États-Unis. Et cela, ils ne vont jamais le pardonner.
Alors, Monsieur Diaz, il y a un autre petit problème avec la France, où cette semaine, une bombe a été lancée à l'ambassade de Cuba en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes à cet incident malheureux?
Oui. Bon, ça fait partie, cher Raymond, de la même la même manière de se comporter des Américains qui ont créé une ambiance autour du monde contre Cuba. Et ils veulent qu'un peu partout, les gens se révoltent contre le paisible et pays plein de charme et d'amitié qui est le nôtre. Et voilà, ils ont payé, semble-t-il, quelques terroristes, parce que c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Ils vont par ici et par là en disant qu'ils sont contre le terrorisme. Et pourtant, ils sont les mêmes qui payent et qui stimulent le terrorisme. L'ambassade de Cuba à Washington, ça fait une année et quelques, a été l'objet d'une attaque avec un fusil de guerre. Il a tiré, je ne sais pas combien de dizaines de balles contre le building de l'ambassade. Ils ont pris le type, ils n'ont jamais condamné cet acte de terrorisme. Et donc voilà, ils ont stimulé un peu partout dans le monde un sentiment anti-cubain et ils ont payé des terroristes en France qui ont jeté 3 cocktails Molotov qui n'ont rien fait à l'ambassade, des petits incendies qui ont été éteints par le personnel de l'ambassade, même les Cubains qui étaient là. Bon, après les pompiers sont arrivés, etc. Mais ça fait partie de cette politique anti-cubaine que le gouvernement américain déploient dans le monde à l'heure actuelle, ils ont l'espoir d'isoler Cuba. Pourtant, c'est eux qui sont isolés, parce qu'il y a quelques semaines, à l'ONU, on a voté un papier que Cuba a présenté contre le blocus économique, qui a été voté pour 184 pays dans le monde, ont voté contre le blocus, et seulement les États-Unis et le Valais d'Israël ont voté pour. Et ça se passe déjà 28 ans suivis qu'on condamne les États-Unis pour le blocus qu'ils ont contre Cuba. Et donc, c'est eux qui sont isolés et ils veulent isoler Cuba. Maintenant, ils font tout type d'efforts pour que des pays se prononcent contre Cuba, contre la soi-disant violence de la police cubaine, contre le manque de démocratie à Cuba, tu vois. Et donc, ils sont arrivés à rassembler des dizaines de pays qui suivent la ligne des États-Unis contre Cuba. Et c'est en suivant cette ligne qu'ils sont arrivés à faire ce petit attaque contre notre ambassade en France. Peut-être n'importe où ils vont encore essayer de nous créer des difficultés, mais ils ne vont jamais nous isoler. Le moral de Cuba sera toujours très haut comme à présent.
Alors, il nous reste deux petits sujets, mais très courts. Je lisais un article cette semaine en comparaison de deux pays, Haïti et Cuba. Si vous allez choisir entre Cuba et Haïti, lequel pays que vous allez choisir, la plupart du temps, c'est Cuba. Au niveau de l'éducation, c'était la même chose entre Cuba et Haïti. C'est toujours Cuba.
Absolument. Oui, j'ai vu cet article. Bon, c'était pas pour mettre Haïti dans une situation
Je comprends. Je comprends ce que tu dis en tant qu'Haïtien. Oui.
Exactement.
Mais la réalité est là. La réalité est là.
Exactement. La grande différence, nous sommes deux pays, les mêmes deux pays frères. La grande différence, c'est que nous avons eu une révolution sociale qui a mis tous les moyens du pays, tout ce qui est à Cuba nous appartient, et nos richesses ont été mises au service de la population. Ça, c'est ça la grande différence entre Cuba et Haïti. Notre révolution socialiste a créé un système qui donne au peuple toutes les possibilités pour se cultiver et pour avoir une santé de la meilleure possible. Le système d'éducation à Cuba, c'est un système gratis, tel qu'il est aussi la santé, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Donc, le fils d'un ouvrier, comme c'est mon cas, le fils d'un paysan, peut devenir un professionnel sans rien payer, parce que c'est gratis. Au contraire, le gouvernement a toujours le souci que tous les enfants aillent à l'école depuis la primaire jusqu'à ce qu'ils peuvent arriver. Donc, c'est cela qui a fait qu'à Cuba, il n'y a pas d'analphabète. Il n'y a pas d'analphabète parce que la première chose que la révolution a fait en 1961, c'est une campagne contre l'analphabétisme. Et en une année, le pays est devenu un pays où tout le monde a pu lire et écrire. Et par la suite, tous les systèmes que nous avons jusqu'à présent. Un pays, comme Fidel Castro disait, un pays d'hommes de lettres, d'hommes de sciences. Et donc, en ce sens-là, le système de santé, en même temps, c'est un système de santé dans lequel vous pouvez vous aller vous si vous avez une petite blessure, et même si vous devez avoir un transplant de cœur, tout cela est gratis. Et donc, comme à présent, dans cette grande lutte contre la pandémie, la COVID, comment c'est possible que Cuba, un pays pauvre et avec très peu de ressources naturelles, a pu faire son propre vaccin pour vacciner le peuple? Et à l'heure actuelle, nous avons déjà plus de 10 millions de doses qui ont été administrées à la population, et on a déjà 3 millions de personnes qui sont tout à fait vaccinées avec les 3 doses. Et déjà, au mois d'août, comme j'avais mentionné dans une autre émission, le 70% de la population sera tout à fait vaccinée. À l'heure actuelle, nous avons des grandes difficultés avec, la COVID, parce qu'on est dans la troisième vague, mais on se bat, on a les moyens. On a les moyens de se battre parce que notre système de santé est l'un des meilleurs du monde. Et les médecins cubains se trouvent un peu dans plus de 40 pays autour du monde en donnant les connaissances et les services nécessaires pour aider pas seulement la population cubaine, mais aussi dans d'autres pays. C'est ça la grande différence. Notre système social qui a développé et qui travaille tout à fait pour avoir une population cultivée et avec beaucoup de santé. C'est ça, Cuba.
Alors, Monsieur Raoul, nous allons terminer sur une note très, très positive. C'est la déclaration du président du Mexique face à Cuba. Je peux dire que c'était quand même très encourageant quand il parlait de la mort d'un grand homme, l'anniversaire de la mort d'un grand homme qu'on se rappelle encore en tant que nègre haïtien.
Ouais.
Ça peut quand même vous encourager.
Absolument. Ouais, tu parles là, Raymond, du président du Mexique, monsieur López Obrador. C'est un grand monsieur, un homme de bien, un homme qui lutte pour le pauvre, comme l'a fait dans son temps Simon Bolivar. Il y a une semaine, on fêtait, c'était l'anniversaire de la naissance. Je crois que c'était le 272e. Exactement. C'était 200 ans et puis 62 ans. Comment on dit ça en français? 262e anniversaire, oui, de Bolivar.
Alors, on va continuer sur le président du Mexique, Monsieur Raúl Díaz. Comme je disais tout à l'heure, c'était quand même un prix de consolation.
Exactement. OK, donc, dans cette manifestation, Monsieur López Obrador, qui parlait de ce grand homme qui était Bolivar, comment il a lutté pour l'indépendance de l'Amérique latine et de tous les pays de la région. Il disait qu'après que les Espagnols ont été vaincus, c'est les Américains, les États-Unis ont pris la relève et donc ils ont implanté le néocolonialisme un peu dans toute la région. Et donc ce qui persiste jusqu'à présent, sauf dans un pays, et donc il a dit qu'on ne le veuille pas, qu'on ne l'aime pas, ce pays-là, c'est Cuba. Et il a dit que Cuba, qui a résisté plus de 60 ans en face des Américains, mérite le prix de la dignité. Et bon, les gens vraiment ont applaudi. Il a dit qu'il regrette s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, qu'il y a des gens qui peuvent être d'accord ou pas avec le système de Cuba, avec le socialisme, mais il a dit que l'ONU devait prendre en compte ce grand exploit du peuple cubain et devait nommer Cuba un pays patrimoine de l'humanité à cause de cette grande bataille que le peuple cubain a menée pendant plus de 60 ans en face de l'impérialisme le plus puissant et le plus vorace jamais existé dans le monde.
Alors, Monsieur Raoul Diaz, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission Samedi Midi Inter et je vous souhaite bon courage et bonne chance à votre cher pays que j'ai eu l'occasion de visiter à deux reprises et que j'aime beaucoup. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Merci beaucoup.
Merci Raymond et toujours prêt à parler à nouveau dans votre émission.
Alors, c'était l'ancien diplomate cubain que vous venez d'entendre, qui n'est pas à sa première à l'émission Samedi Midi Inter, M. Raoul Diaz. Une petite pause et je vous reviens tout de suite après avec d'autres informations.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
M'a profité l'occasion à saluer quelques amis qui appartenaient depuis des et des années à Basile. C'est les frères Marseille. Qui est-ce bon qui pas de songer au restaurant que vous avez gagné et sous avenue du Pac à Basile, qui était vendu après. Et nous connaissons que M. Sayo, c'est des vétérans dans la question du taxi également à Basile.
Effectivement, Raymond, donc nous connaissons sorti dans le club qui était sous Jean Talon, coin Pineflan, c'est dans un restaurant où tu as lagué sous Pac Avenue. Et puis, côté tu bon petit bon, bon, manger, bon petit bagage, et puis nous avons une bon, ambiance tout, que nous fait tout. Je ne vais pas rappeler avec qui, orchestre, qui, monde qui était allé jouer pour eux. Je vais demander si ce n'est pas l'homme orchestre qui était là, parce que je fais le tour, je suis allé à Toto, je suis allé à Grenadia. Monsieur Tekonka et Loulou, et pas Loulou, non, et ça qui en face lui doit Raymond. Où est qui est-ce? Il va parler.
Alors, moi,
c'est tout, tout, tout.
C'est tout, tout, restaurant.
C'est tout, tout.
Alors, c'est le deuxième étage, le restaurant chez Toutou. C'est là, en bref, ça a été. Alors, il faut pointer donc que c'était quand même très bien, très bien. Alors, avant, il faut pointer donc que Plaza, je crois qu'il appartenait à Élie. Hein? Élie, le marché haïtien.
Oui. Aimez-moi là, oui.
Alors, ceci dit, d'après saluer Agathe Césaire, la coiffeuse, et ça fait quand même longtemps qu'il est dans le domaine ça, et c'est le monde qui est toujours à côté de l'émission Samedi Midi Inter. Alors, ça clôt les dédicaces Yves Basile. Il a pété tout le monde. J'ai été branché.
J'en ça qui relève destiné. Soleil, bon Dieu, éclairé pour tout le monde. Faut pas laguer. Même si devant tout le monde barré, persévérer. Pas quitter.
Alors, et la semaine dernière, c'était une semaine très bouleversante et de grandes tragédies, et on l'est encore, et c'est ce qu'on va analyser avec le professeur Wilson Saint-Elmé. Bonjour Wilson, comment ça va?
Bonjour Raymond, ça va bien, bonjour à toute l'auditoire, auditeurs, auditrices, radio, émission Samedi Midi Inter.
Alors, comme je viens de mentionner, la semaine dernière a été une semaine très bouleversante en événements tristes, commençant par le massacre de Delma 32 avec l'assassinat du président de la République. Et le pays est encore dans l'incertitude et toujours bouleversé.
Toujours bouleversé, ce n'est pas qu'Haïti qui est dans l'incertitude et qui est bouleversé. La communauté internationale l'a tout choqué face à la violence qui a secoué la communauté haïtienne. Maintenant, on le sait, personne n'est à l'abri de cette violence, y compris l'homme le plus puissant du pays, l'ex-président Jovenel Moïse. Donc ça, c'est un trait caractéristique du système haïtien dans sa violence structurelle. Cette violence, elle est rendue trop loin. Comment ramener l'ordre et la paix au sein de la grande famille haïtienne? C'est la grande question à laquelle il va falloir répondre à court et à moyen terme.
Et l'ordre, ce n'est pas pour demain, d'après moi. D'après ce qu'on peut observer depuis avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, et on est encore dans l'incertitude avec un gouvernement de facto et avec l'implication des États-Unis, pour ne pas dire le corps groupe, on est plongé dans la grande confusion.
Plongé dans la grande confusion, oui. Par contre, il faut relativiser tout ça, parce que cette confusion est entretenue également à partir du manque de cohérence de l'opposition haïtienne, malgré le fait que leur ennemi commun ait été terrassé, assassiné, etc. Cette opposition n'est pas parvenue à se donner une position cohérente à la suite de la mort du président. Dans un premier temps, ils ont encouragé la communauté internationale à appuyer le nouveau Premier ministre, Dr. Ariel. Mais dès que la communauté internationale, à travers le corps groupe, a décidé d'aller dans la même direction, ils n'ont même pas eu le temps de compléter le processus que cette opposition changer fusil d'épaule. Donc, il faut avoir une cohérence, tout le monde sait. Parce que parfois, la communauté internationale a dirigé sa capacité en Haïti, mais parfois aussi, c'est M. Yo qui n'a pas gagné cohérence dans la position. Parce que si les corps groupes, à mon avis, a appuyé la cession ou l'avènement de M. Dr. Ariel Henry à la primature, c'est précisément parce que l'opposition avait manifesté l'intérêt pour cette primature-là, l'intérêt pour la candidature, en tout cas pour la prestation de serment du docteur Ariel Henry. Or, lorsqu'ils ont changé d'avis, la communauté internationale n'a pas changé d'avis. Et ça, c'est des choses qu'on peut retracer. On le sait que c'est l'opposition qui a glissé les noms d'Ariel Henry à Jovenel Moïse, malgré ce qu'ils disent, parce que Ariel Henry lui-même l'a dit, que ce n'est pas Jovenel Moïse qui l'a choisi, ce n'est pas Jovenel Moïse qui l'a approché. Ce sont les membres de cette opposition qui ont, en premier, approché Ariel Henry pour lui proposer le poste.
Alors, il faut et dire que... Ouais, il faut dire que Ariel Henry n'est pas un nouveau venu au niveau de la politique. Il était membre de l'unité sur le défunt président René Garcia Prival et actuellement il fait partie du groupe de PHTK, un parti très controversé et très criminalisé également, il faut le dire. Alors, il a eu quand même des appuis un peu partout. Et on peut remarquer, par exemple, certains membres de son cabinet qui sont venus de plusieurs formations politiques, surtout des gens qui voulaient avoir à n'importe quel prix un poste de ministre.
Oui, je crois que Ariel Henry, c'est un prévalien, pour ne pas dire un prévaliste. Vous savez, la méthode de Préval de distribuer les portefeuilles ministériels à l'ensemble de l'opposition afin d'écarter le pouvoir. Sa préval avait cette capacité-là. Et je crois que le nouveau Premier ministre est en train de pratiquer la même méthode. Et il l'a dit, en tant que chirurgien, il a été formé pour travailler en équipe. Et c'est ce qu'il a l'intention de faire. Les intentions étant là, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va être conséquent avec la méthode du gouvernement qui semble vouloir se donner? Parce qu'il y a un style, Ariel Henry, qui se dessine à l'horizon. Le style qu'on a déjà expérimenté, ce style-là, René Préval l'a pratiqué tout au long de sa carrière politique. Est-ce qu'il va aller dans le même sens? Est-ce qu'il va poursuivre dans ces sens-là? Ça reste à voir, mais pour le moment, la composition de son cabinet ministériel semble confirmer cette tendance vers un gouvernement qui voudrait rassembler l'ensemble des éléments de l'opposition, en tout cas tous ceux qui voulaient participer là-dedans. Parce que Ndambé Mouché dit qu'il a dû négocier avec le PHTK pour trouver un poste ministériel pour le PHTK. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un gouvernement PHTKiste.
Alors, donner à César ce qui est à César, il faut dire que c'est quand même quelqu'un qui a quand même une très bonne formation et qui est à la hauteur de sa tâche.
En tout cas, il a exprimé le désir de demeurer fidèle à la ligne directrice qui a été tracée par Jovenel Moïse lors de son choix comme Premier ministre. Les deux hommes apparemment ont travaillé ensemble pendant plus de 3 à 4 semaines afin de se mettre d'accord sur les grands axes d'action du nouveau gouvernement. Et il a défini ces axes d'action en 3 points principaux. D'abord, la sécurisation du pays, essayer de trouver une atmosphère pacifiée pour permettre aux gens de faire campagne et d'aller aux élections. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, soulager le sort des plus pauvres, c'est-à-dire essayer de maîtriser l'inflation et en même temps permettre aux gens d'avoir adéquat manger, se nourrir le jour du vote, en tout cas les semaines qui précèdent et les jours du scrutin. Et enfin, ce qu'il avait dit, c'est que la question du référendum, la question de l'amendement constitutionnel, Jovenel Moïse avait donné 2 points essentiels à Ariel Henry qui étaient non négociables. C'est d'abord l'inclusion de la diaspora. Et le deuxième point, je crois, c'était la question de la présidence. Pour le reste, il avait dit à Ariel Henry, vous faites ce que vous voulez, je vous enverrai une copie du texte. Ce sont les 2 seuls points. Je ne suis pas sûr, tout à fait sûr, parce que j'ai un bloc de mémoire quant au deuxième point, mais le premier point, je suis sûr de ces points-là. Jovenel Moïse, d'après, selon Ariel Henry, il a dit le président veut absolument restaurer la diaspora haïtienne dans ses droits constitutionnels. Et que l'autre point, je crois, que c'était la question de la présidence. Alors là, c'est à vérifier, mais il y avait 2 points sur lesquels les deux hommes s'étaient mis d'accord. Et Ariel Henry a dit tout simplement qu'il va continuer l'agenda politique qui avait été esquissé entre lui et le président de la République avant son assassinat. Et ça, ça prouve que l'homme a les suites dans les idées. Cela signifie également que ceux qui se sont débarrassés de Jovenel Moïse n'ont pas encore fini avec Jovenel Moïse, parce que c'est maintenant que la carrière politique de Jovenel Moïse vient de commencer. La façon dont on a assassiné Jovenel Moïse, eh bien, on lui donne une légitimité posthume qu'il n'aurait pas eu si on lui avait laissé terminer tranquillement son mandat. Ses ennemis de Jovenel Moïse, peut-être, ont assassiné l'homme, mais ils sont en train d'héroïser Jovenel Moïse également, parce qu'il y a un héritage Jovenel Moïse qui se dessine à l'horizon. Un homme qui a osé, peut-être, ou qui avait l'idéal de pénétrer une zone interdite, et parce qu'il a voulu pénétrer cette zone interdite, eh bien, ça lui a valu un assassinat atroce. Donc, la carrière politique de Jovenel Moïse va complètement changer. Ce que l'histoire va réserver à cet homme-là, ce sera un trophée vis-à-vis de la façon dont ses adversaires, sinon ses ennemis politiques, se sont débarrassés de lui.
Alors, et même quand le ministre reconnaît l'importance de la diaspora, la seule chose, la question du référendum a été mise de côté par l'actuel premier ministre, M. Ariel Henry, mais on ne peut passer sous silence non plus la présence d'un ambassadeur, en fait, de carrière, qui a été délégué par le ministre des Affaires étrangères en Haïti en la personne de M. Bout.
Oui, ce qui se passe actuellement, ça me permet vraiment, pour bien situer et contextualiser cette visite dans cette dimension géopolitique, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais probablement vos auditeurs et auditrices s'en rappelleront, il y a une similitude entre ce à quoi nous avons assisté récemment et ce que nous avions assisté il y a un siècle auparavant. N'oubliez pas que le désordre qui a caractérisé les débuts du siècle en Haïti, en tout cas le début du siècle politique haïtien, le début du XXe siècle, je veux dire 1900-1914, nous sommes en train d'assister à la réédition de cette période sur le plan politique. Donc, un chaos social, un chaos politique précédé par un banditisme institutionnalisé qui s'est soldé par l'assassinat de Guillaume Villebrun-Sam dans la légation exclusive française, on arrive à peu près à la même chose, sauf que Jovenel Moïse a été assassiné dans sa propre chambre à coucher. Là, les Américains voudront probablement arrêter cette course vers les chaos. Peut-être qu'on va assister pas à la réédition d'une occupation formelle des États-Unis d'Amérique de la République d'Haïti, mais nous allons assister à une mainmise de Washington pour éviter que le pays bascule dans le chaos social le plus total, parce qu'on n'est pas tellement loin. On n'est pas tellement loin, vraiment. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays-là du point de vue institutionnel. Ce qui restait comme institution, c'est la présidence. Eh bien, on vient tout simplement d'assassiner cette présidence. Je ne parle pas d'assassiner le président. On vient de détruire le dernier bastion institutionnel, la dernière manifestation institutionnelle à travers le pays. Il n'y a plus de présidence, plus de parlement, plus de cour suprême. Il n'y a plus rien. Il faut quelqu'un pour incarner les institutions en Haïti. Et à défaut d'institutions haïtiennes, eh bien, ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont devoir jouer ce rôle-là. Les Haïtiens ont complètement démissionné. On est en face d'une élite qui a complètement failli. Il ne reste plus rien. C'est ce par quoi on a remplacé la dictature des Duvaliers. On a chassé un pouvoir omnipotent pour le remplacer par quoi ? Par les chaos. On a basculé d'un extrême à un autre en l'espace de 4 décennies. Entre l'ordre et les désordres, il ne reste que Washington pour essayer, tant bien que mal, de garder un semblant de normalité institutionnelle en Haïti.
C'est un dossier à suivre, mon cher Wilson Saint-Elmé.
Depuis 1991, avec le renversement de Jean-Bertrand Aristide à peine 7 mois après son élection, massivement appuyée par la population, nous gérons une crise. La crise est devenue la forme de régulation permanente de la République d'Haïti. Je suis très pessimiste en quant à une sortie prochaine de la crise haïtienne. Il faut des conditions préalables. Tiens, je vous lancerai une idée peut-être farfelue. Moi, je crois que Haïti a besoin d'une nouvelle convention de la CAE. Au moment où nous sommes rendus, au stade où nous sommes rendus aujourd'hui, nous avons besoin de refaire ce qu'on appelle les consensus de la CAE. Ce consensus qui a permis de déboucher sur l'indépendance de la République d'Haïti. Ce moment fondateur où l'ensemble des enfants du pays, esclaves, mulâtres, blancs progressistes, parce qu'il y en avait quelques-uns, se sont mis autour d'une même table pour dessiner l'horizon d'un destin qui était celui d'un destin politique, je veux dire, celui de l'indépendance d'Haïti. Nous avons perdu l'indépendance, nous avons sacrifié les consensus qui a mené à cette indépendance, parce que l'indépendance a eu lieu, parce qu'il y a eu ce consensus-là, Eh bien, pour restaurer la dignité de la République d'Haïti, il nous faudra cette deuxième convention de la Cahiers pour que les enfants du pays puissent au moins s'asseoir autour d'une même table et décider d'un projet de société pour l'ensemble des enfants de ce pays-là. Qu'il s'agisse des Jovenel Moïse, qu'il s'agisse des gens d'être Aristide, qu'il s'agisse de Dessalines, je crois que l'erreur fondamentale qu'on a faite, c'est d'avoir pensé un projet de société fondé sur l'exclusivisme. C'est ça, paladin, yo paladin, toujours grand monde qui pourrait être d'ailleurs. Quand c'est pas diaspora, c'est peut-être la majorité du pays. Quand c'est pas la majorité du pays, ce sont ceux dont on taxe qui sont des importés ou des étrangers. Mais ils sont aussi des enfants du pays. Il nous faut inclure tout le monde pour un projet qui permette à tous les Haïtiens de vivre chez eux, de s'épanouir chez eux, de retourner chez eux. Ceux qui veulent retourner au pays, c'est de ça que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une sortie de crise. On a besoin d'un projet de société où est-ce que chacun de nous va vouloir sacrifier une petite part de lui-même au profit de la majorité, au profit de la collectivité, au profit du vivre ensemble. Ça, c'est dans ces genres de perspectives-là, je crois qu'il faut travailler avec l'aide de la communauté internationale, mais pas avec la communauté internationale comme chef d'orchestre. Ce sont les Haïtiens qui doivent être les chefs d'orchestre de ce nouveau consensus pour la construction d'un pays neuf, différent de celui que nous avons bricolé, matisé, maltraité, méprisé, ignoré et même sacrifié depuis 217 ans. C'est ce que je vous dirais. Si l'assassinat de Jovenel Moïse permettait de faire ça tout simplement, eh bien, on aura rendu justice à cet homme-là, on aura rendu justice aussi à son idéal.
N'a dit un projet, tout le monde la donne.
Un projet, tout le monde la donne.
C'est sous notre
haïtien, haïtien, on tout nos gains droits de citer dans la cité.
C'est sous notre ça, Mabdou, merci pour votre participation. Et à la prochaine, mon cher.
Bienvenue, Raymond.
Alors, c'était Wilson Saint-Elmy qui nous entendait là. Il y a une parole.